Mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans la cour d'école de CFM Radio. Vous écoutez le carnet de correspondance en compagnie de Jean-Marc Robin. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous intéresser à la classe de 3e, car dans le précédent numéro qui est un peu lié à la rentrée scolaire, hein, nous avions orienté notre discours envers les élèves de classe de 6e et leurs parents aussi. Aujourd'hui, c'est la 3e plus particulièrement qui va nous intéresser, une classe qui est un peu charnière hein, dans les apprentissages des élèves, ben déjà parce que c'est la fin du collège et à la fin de l'année, ces collégiens-là passeront leur premier véritable examen. Jean-Marc Robin, bonjour.
Bonjour Jack.
Merci d'être en notre compagnie. Hein, Jean-Marc Robin qui est le principal du collège Valcérou de Cordes-sur-Ciel, où il y a combien de troisièmes aujourd'hui actuellement là?
Alors actuellement, il y a 3 divisions et on est 70.
D'accord. Voilà. Ce qui est plutôt moyen, correct pour un collège.
Ah oui, c'est très confortable, hein, parce que ça nous fait des classes à 25, donc on est assez contents. Oui.
avant de se pencher complètement dans les objectifs hein, de qui sont attendus pour ces élèves et collégiens de classe de 3e, est-ce que tu dirais que la classe de 3e est peut-être difficile ou pas? Parce que ce qui revient souvent, c'est qu'on dit que c'est la classe de 4e qui n'est pas évidente.
Alors en fait, c'est vrai que... la classe de 3e, en fait, il y a beaucoup de choses à faire, puisqu'il y a l'orientation, on va reparler, il y a aussi le brevet des collèges. Mmh. Mais c'est une classe que moi j'appelle une classe de réconciliation, parce que les élèves, cette année-là, elle fait vraiment du sens. Là, tu passes le brevet, il y a plein d'enjeux, il y a l'orientation, tu as une autre relation avec les professeurs, tu es les grands du collège. Et donc, voilà, cette classe de 3e, souvent, elle se passe bien. Elle a beaucoup de sens pour les élèves. C'est une classe très agréable.
Ouais.
Tu vois, en fait, au collège, tu as deux classes très sympas. Tu as la classe de 6e. La classe de 6e, voilà.
On te chouchoute, là.
Chouchoute. Et puis, c'est vrai que les élèves ont gardé un petit peu, comme ça, cette ingéniosité, cette énergie-là. Donc, ils sont d'accord pour tout faire. Tu leur dis de faire une dictée, ils sont emballés. Tu leur demandes de faire un exo de maths, ils veulent le faire. En tout cas, c'est très chouette d'enseigner en classe de 6e, et je le sais par les collègues et par mes observations. 5e, 4e, tu vois, tu es vraiment au cœur de l'adolescence. Là, c'est un peu compliqué. Les élèves prennent une certaine distance avec les savoirs, avec les adultes. C'est plutôt, tu vois, le groupe de pères qui domine, les copains. Et puis, la transgression des règles. Voilà. Et puis après, en classe de 3e, finalement, on sait qu'on va partir. On est les grands du collège. Et puis, il y a tellement d'enjeux que cette année-là, tu sais, souvent, les élèves, ils se posent la question pourquoi ils travaillent. Quel est l'enjeu de l'année? Alors là, pour le coup, en classe de 3e, ils savent les enjeux. Hein. Voilà. Et ça, c'est sûr que ça les remobilise. Et moi, ce que je constate d'année en année, c'est qu'on a souvent beaucoup de plaisir d'être avec les élèves de 3e. D'abord, on les voit beaucoup. Moi, quand je suis à l'établissement, je vois beaucoup pour parler d'orientation, pour parler du brevet, pour faire le suivi des élèves. Et puis, c'est les grands du collège, quoi. Donc, ils ont des relations aussi un peu particulières.
On parle beaucoup du brevet en classe de 3e, mais on va le voir hein, dans le cadre de cette émission, que ce n'est pas la seule évaluation contrôle un peu des connaissances et compétences qui sont attendues par ces collégiens. Autrefois, et même, je crois que ça continue d'ailleurs, hein, le brevet était surnommé le petit bac. Et j'apprends par toi qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le brevet pour passer en classe de 6e.
En fait, Jack, ça n'a jamais été le cas. Depuis que le brevet existe, ça n'a jamais été une condition sine qua non pour passer en classe de seconde.
D'accord.
La condition pour passer en classe de seconde, c'est d'avoir le feu vert du conseil de classe ou du chef d'établissement. Donc, chaque année, tu peux avoir des élèves qui n'ont pas le brevet, hein, puisque maintenant, on l'appelle le diplôme national du brevet, et qui passent en classe, par exemple, de seconde générale technologique ou en seconde professionnelle. Alors, ça n'a jamais été couplé, en fait. Ça, c'est,
franchement, là,
tu vois, c'est pas comme le certificat d'études, ça n'a jamais été le cas.
D'accord. Donc, ce diplôme national du brevet, qui est donc le premier examen reconnu hein, pour tout élève qui arrive jusqu'à ce niveau-là en classe de 3e au collège. Comment ça se passe donc aujourd'hui dans les faits, ce diplôme national du brevet, Jean-Marc?
Alors, en fait, le diplôme national du brevet, il faut savoir qu'il a beaucoup changé. Pendant un certain temps, on ne le passait plus. Et c'est Jean-Pierre Chevènement, quand il était ministre de l'Éducation, qui a décidé, tu sais, attaché tout au rite républicain, etc. Donc, c'est lui qui l'a réétabli, en fait. Et au fil des années, en fait, il s'est enrichi. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'épreuves. Alors, c'est vrai qu'on en entend souvent parler, on n'a pas d'exigence à l'école de la République. C'est tout le contraire, parce que je vais pouvoir rappeler toutes les épreuves que passent les élèves de 3e, et c'est pas rien. D'abord, ils vont passer une épreuve de français. Donc, de 3 heures, 2 fois 1h30. Donc, il y aura une partie études de texte, grammaire, dictée et après rédaction. Ils auront la possibilité d'utiliser un petit dictionnaire. On fait ça en 2 fois 1h30 avec une petite coupure d'un quart d'heure pour qu'ils puissent quand même respirer un petit peu. Après, une épreuve de mathématiques de 2 heures, une épreuve d'histoire qui va durer 2 heures et après une épreuve de science. Tu vois, ça, c'est nouveau, par exemple. Il n'y avait pas d'épreuve de science pendant très longtemps. Et là, concrètement, on a 3 disciplines scientifiques. On a les SVT, sciences et vie de la Terre, la technologie ou physique chimie. Et il y en a 2 qui sont tirés au sort. Donc souvent, c'est SVT ou physique chimie ou SVT et technologie. Voilà. Alors bien sûr, toutes les disciplines, elles n'ont pas le même coefficient, le même nombre de points. Pour avoir le brevet, il faut avoir 800 points. Et les épreuves finales, elles comptent pour 400 points. Donc si je reviens un petit peu en arrière, le français, c'est 100 points. Les mathématiques, c'est 100 points. L'histoire-géographie, c'est 50 points. L'épreuve de science, c'est 50 points. Et à cela s'ajoute un oral. Tu vois, par exemple, ça, c'est une épreuve qui n'existait pas. Donc, on va faire passer un petit oral aux élèves. Et là, ils vont pouvoir choisir un petit peu leur sujet. Alors, soit sur le parcours artistique et culturel, tu vois, par exemple, commenter une œuvre d'art. Ça peut être aussi un livre qu'on a beaucoup aimé, qu'on a étudié en classe, qu'on va pouvoir présenter. Ça peut être aussi autour de leur projet d'orientation, ce qu'on appelle le parcours à venir. Ça peut être aussi autour du parcours citoyen, par exemple, s'ils ont été délégués de classe ou s'il y a un thème qui les intéresse tout particulièrement, ou éventuellement le parcours santé. Donc, concrètement, si on résume, il faut avoir 400 points sur 800 pour avoir le brevet. Donc, tu as 400 points, ces épreuves finales, au mois de juin. Alors, en général, c'est 28-29 juin. Et puis après, tu as 400 points de contrôle continu.
Ça, c'est durant l'année scolaire.
C'est durant l'année scolaire. Mmh. Alors là, il faut faire attention parce qu'on pourrait penser qu'on fait la moyenne des notes de toutes les disciplines, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce qu'en fait, on a une double évaluation. On a une évaluation par notes, que les parents connaissent bien, mais on a aussi une évaluation par compétences. Et là, on n'évalue pas les compétences des élèves par discipline, mais par grand domaine.
C'est-à-dire ?
Eh ben, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et tu as 5 grands domaines que je vais pouvoir énoncer. Le domaine 1, c'est le domaine des langages pour communiquer et penser. Donc, dedans, tu retrouves le français, les langues vivantes étrangères, les mathématiques, mais aussi le langage des arts et du corps. Donc ça, c'est le premier domaine qu'on va évaluer sur 50 points. Après, tu vas avoir méthodes et outils pour apprendre. Donc là, c'est tout ce qui est autour de l'accès à l'information, hein, au numérique. Après, tu as tout ce qui est la formation de la personne du citoyen, tout ce qu'on appelle l'enseignement moral et civique. Après, tu as tout ce qui est autour des systèmes naturels et techniques. Dedans, on compte les sciences physiques, les sciences et vie de la Terre. Et puis après, les représentations du monde et l'activité humaine. Donc, en fait, on va évaluer les élèves, non pas par discipline, mais par groupe de disciplines ou par grand domaine, et en fonction de leur niveau de compétence. Alors, tu as plusieurs niveaux de compétence. Quand c'est vraiment très fragile, ça te compte 10 points. Quand c'est... quand c'est, disons, moyen, pour faire simple, c'est 25 points. Quand ça commence à devenir très solide, c'est 40 points. Et puis après, si vraiment tu es très, très fort, niveau expertise, hein, c'est 50 points. Et là, t'as bingo. Donc, en fait, ce socle commun, alors c'est très compliqué. Nous, l'école, c'est toujours très compliqué. On fait jamais simple. Donc, on a 5 domaines dans le socle. Mais au moment de l'évaluation, ces 5 domaines se transforment en 8 grandes compétences qu'on va évaluer suivant un degré de maîtrise. Et donc, 8 fois 50, tu vois, ça fait 400. Et donc, on se réunit à la fin de l'année avec les collègues et on dit, tiens, dans le domaine, par exemple, de la citoyenneté, on regarde un petit peu les notes, on regarde un petit peu les compétences des élèves et on dit, ben tiens, on va lui mettre 10, 25, 40 ou 50. Voilà. Donc, tu peux avoir des élèves qui, à la fin de l'année, en fait, ils ont déjà presque le brevet.
Presque le brevet, oui.
Certains qui peuvent avoir 350, 380 et chaque année, on a des élèves qui ont 400. D'où l'importance, après, des mentions. Tu sais qu'on n'a pas toujours eu des mentions au brevet des collèges, mais on les a rétablies, un peu pour challenger.
Pour vraiment les challenger aussi.
Tu vois, nous, hier, on a fait la réunion avec les parents d'élèves de 3e, et j'ai rappelé aux parents d'élèves de 3e que l'objectif, ça peut pas être d'avoir le brevet. Parce que le brevet, concrètement, 87%, 90% des élèves l'ont chaque année.
C'est ça le taux de réussite, ouais.
Ouais, national, on est à 87%. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 2/3 des élèves ont une mention, c'est-à-dire au moins... mention assez bien, c'est-à-dire au moins 12 de moyenne. Donc concrètement, bon, si tu as le brevet, c'est bien. Mais si tu veux passer au lycée, en seconde générale technologique, on en reparlera tout à l'heure, il te faut au minimum mention assez bien, c'est-à-dire 12 de moyenne, et en fait, mention bien. Tu vois, par exemple, si... Concrètement, un élève qui a mention bien au brevet, bon, il rentre en classe de seconde bien armé. en dessous, c'est un petit peu fragile. Ça veut dire qu'il va falloir bosser.
Et d'ailleurs, tu as parlé des lycées pro et technologiques, parce que ça, je l'ignorais aussi, mais des élèves qui ont un projet professionnel et qui ne sont peut-être pas au niveau de leurs camarades en troisième, ils peuvent avoir une petite alternative.
Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux séries dans le brevet des collèges, ce que souvent on ignore. Tu as la série générale et puis tu as une série professionnelle, c'est-à-dire que chaque année, on peut proposer à des élèves... Alors attention, il faut qu'ils aient un profil particulier. D'abord, il faut qu'ils aient vraiment le projet d'aller en lycée professionnel, en seconde professionnelle.
Que ce soit déjà bien calé.
Voilà. Et après, il faut qu'ils aient un niveau un peu fragile, parce que... Ce brevet série professionnelle, les sujets sont différents. C'est un petit peu plus facile, mais ça dépend des années. Parce que des fois, le sujet mathématique de la série pro, il peut être aussi un peu difficile. Ouais, c'est un petit peu plus facile. Mais nous, on ne peut pas inscrire les élèves comme ça, comme on le souhaiterait, en série professionnelle. Donc, tu vois, sinon, on inscrirait tout le monde en série pro, ce serait plus facile. Donc en fait, ça, c'est vraiment régulé par l'inspection académique. C'est-à-dire qu'on va prendre... Bon, chaque année, moi, par exemple, au Collège de Couverture Ciel, je vais présenter... 3-4 élèves, série professionnelle, et puis après l'inspection académique va recueillir toutes les demandes des différents établissements du Tarn, et on va voir, et chaque année j'ai 2-3 élèves qui passent à série pro, mais c'est des élèves qui sont un peu fragiles, et c'est vrai que si on les présentait pas dans la série pro, peut-être qu'ils auraient quand même de fortes chances de pas avoir le brevet des collèges.
D'accord.
Et puis tu as, pour les élèves qui sont très très très, très fragiles, c'est-à-dire que là, concrètement, le brevet des collèges, qu'il soit série pro ou série générale, ça va être très compliqué. On a la possibilité de leur faire passer un autre diplôme. Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est en plus. C'est-à-dire, on les inscrit au brevet et en plus, on les présente au CFG, Certificat de Formation Générale. En fait, ça correspond à des élèves qui vont faire un CAP. Disons que c'est un certificat qui atteste qu'ils ont fini leur collège avec un niveau qui va être autour, disons, d'une fin de classe de quatrième. Bon, je simplifie un petit peu les choses. Hein.
C'est pour ne pas les freiner ni les bloquer dans leur apprentissage, parce que des fois, ça se débloque au CAP.
Oui, et puis c'est aussi pour reconnaître aussi que même s'ils ne sont pas au niveau où on aimerait, ils ont quand même des connaissances, des compétences, et donc c'est une petite certification qui vient un petit peu boucler leur scolarité, et je trouve que c'est pas mal. Alors, c'est un petit peu symbolique, on est d'accord. De toute façon, le brevet des collèges est symbolique, hein. Mais c'est quand même le premier examen que passent, que passent les élèves.
Ah ben oui, alors en troisième, c'est très important. On en parle beaucoup hein, de ce brevet. D'ailleurs, certains se mettent la pression dès le premier jour. Et finalement, à raison, au vu des explications que tu viens de nous apporter. Mais il n'y a pas que ça. On parle aussi des certifications. Et là, ben, c'est à différents niveaux. Là.
Alors oui, c'est vrai que pour les parents, la classe de troisième, ça rime avec brevet des collèges. Ils ont raison. Mais en fait, on passe notre temps à évaluer en permanence nos élèves. À côté du brevet des collèges, il y a ce qu'on appelle des certifications. Alors là, concrètement, tu ne peux pas échouer. C'est-à-dire qu'on va, dans le domaine de l'informatique ou de l'anglais, je vais y revenir, on va évaluer ton niveau, hein, ton niveau de compétences.
On le positionne dans une case.
Alors, donc, tu as une première certification qu'on appelle PICS. Hein, donc là, on va évaluer les compétences dans le domaine informatique. En distinguant bien, je l'ai déjà précisé ici, ce qu'on appelle la pensée informatique, c'est-à-dire... l'algorithmique, tout ce qui concerne le code, ces compétences-là. Et puis après, les compétences qu'on appelle la littératie numérique, c'est-à-dire ta capacité à te débrouiller concrètement qu'un ordinateur. Tu vois, envoyer un mail, paramétrer ton imprimante, travailler avec deux fichiers ouverts, être capable de faire des recherches.
Et ça, ils l'apprennent en cours, ça ?
Alors ça, en fait, une partie s'est fait en cours. Et une partie, c'est fait aussi par ce qu'ils font à la maison.
À la maison,
voilà.
Ouais.
Et d'ailleurs, justement, cette plateforme PICS, elle te permet, une fois qu'on a donné les codes aux élèves, de pouvoir eux-mêmes travailler, s'évaluer. Donc, c'est pas mal.
Okay.
Et cette plateforme PICS, en fait, cette année, il y aura une nouveauté. Hein, c'est-à-dire qu'on commence le travail dans le domaine de l'informatique, de la formation, l'évaluation en classe de 5e. On va commencer en 6e. Et ça te suit tout au long du parcours. Tu vois, tu as PICS collège, PICS lycée, je fais simple. Hein, et puis après, tu peux poursuivre aussi l'enseignement supérieur. Et ça vient certifier ton niveau de compétence dans le domaine... Dans le domaine numérique, alors le maximum, c'est 1000 points PICS. Alors, au niveau du collège...
Elon Musk, là.
Voilà, ouais. 1000 points PICS, il faut vraiment être très, très, très fort. Au niveau du collège, pour te donner un petit peu un ordre de grandeur, la plupart des élèves vont avoir 150, 200, et passer 200 points PICS, 300 points PICS...
Là, c'est déjà des bons
geeks, là. C'est pas mal,
Alors ça, c'est pour le côté informatique. Mais on n'oublie pas les langues.
Alors voilà les langues. Alors ça, c'est vrai aussi, c'est des choses qu'on ne sait pas. Mais les élèves vont être aussi positionnés par rapport à leurs compétences en anglais. Et là, on va utiliser le cadre européen de référence.
Ouais.
Donc je vais le rappeler. En fait, on positionne, si tu veux, la capacité à parler en langue étrangère par rapport à plusieurs niveaux. Le niveau A, c'est utilisateur élémentaire. Et là, on distingue le niveau A1 et A2. Donc A1, c'est tu débutes dans une langue, et A2, tu es un peu usuel. Le niveau B, tu es un utilisateur indépendant. Ça correspond souvent au lycée, hein, en termes de compétences. Et le niveau C, ça correspond aux études supérieures. C'est-à-dire que là, tu es vraiment très à l'aise, quoi. Alors, pour le collège, concrètement, il faudrait que les élèves puissent avoir le niveau A2 en fin de collège. Voilà. Moi, quand je regarde au collège de Corte-sur-Ciel, en anglais, honnêtement, la moitié des élèves n'arrivent pas à décrocher le niveau A2. Donc, tu vois, on a quand même du travail à faire. En revanche, ce que je constate, c'est que des élèves qui ont souvent, tu vois, une pratique de la langue étrangère avec les jeux vidéo, la chanson, les voyages, arrivent parfois aussi à avoir un très bon niveau. Par exemple, le niveau B1 qui correspond à un niveau lycée. Donc, ça permet de rappeler toujours qu'en anglais, les Français ne sont pas toujours...
Pas toujours évident.
Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. C'est pas toujours évident. En anglais, on n'est quand même pas les champions de l'Europe. Hein. La maîtrise de l'anglais.
Donc, il y a des évaluations donc, au travers donc, du diplôme national du brevet, de ces certifications que l'on vient d'aborder en informatique et en anglais, mais ce n'est pas tout. Et là, c'est un peu plus su et connu par tout le monde. Au moins, on sait qu'en classe de 3e, on peut éventuellement avoir un scooter un peu plus tard. Donc, ça veut dire qu'on a eu son attestation de sécurité routière. Hein.
Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à côté du diplôme du brevet, à côté des certifications dont on vient de parler, tu as deux attestations importantes qu'on passe en général en classe de 3e. La formation au premier secours, ça c'est vraiment très important. Hein. Et on sait le rôle que ça joue pour sauver des vies humaines. Et puis l'attestation de sécurité routière qu'on appelle la SSR2. Moi, je suis content cette année parce que nous, on a fait passer la formation au premier secours en classe de 4e, ce qui fait que ça va nous libérer un petit peu de temps pour le reste. On peut le passer en 4e ou en 3e.
Ouais, d'accord, ok.
Donc tu vois, l'année, elle est très chargée, hein, parce que on a toujours l'impression que nos collégiens ne travaillent pas beaucoup, mais en fait, la classe de 3e, je peux te dire que...
Ils s'en passent des choses.
Ah ben, comme dirait une collégienne que je connais bien, il faut charbonner.
Et on va voir que ce n'est pas tout dans cette classe de 3e où on demande aussi aux élèves, hein, de se projeter un peu plus loin, même au-delà des simples études. On va parler de l'orientation post-3e juste après avoir écouté un peu de musique. Et ben tiens, c'est Jules et le Vilain Orchestra qui nous chantent le trèfle à trois feuilles.
Je ne suis qu'un trèfle à trois feuilles, une goutte d'eau dans l'océan, une brindille que l'on cueille, que l'on rejette négligemment. Pas même un point, une virgule, ni le stigmate d'un recensement. À peine un pistil ridicule qui se débat contre le vent. Je ne suis qu'un trèfle à trois feuilles, seulement j'ai poussé dans un champ où l'on bataille sur des cercueils, où l'on désherbe le chien d'en, qui ne fait pas les bonnes prières, qui ne salue pas le bon drapeau, qui n'a que le choix suicidaire de s'entasser sur un radeau. Ne craignez pas la mauvaise graine, je ne souillerai pas vos jardins. Mon sac est lourd de trop de peine, où le poser je n'en sais rien. Alors je guette sur le seuil un bienvenu dans un regard, pourvu que personne ne m'en veuille. Messieurs, dames, je m'appelle Amar. Je ne suis qu'un trèfle à trois feuilles qu'on ne voit pas sur la photo. Je ne vous tape jamais dans l'œil, vous ne me tapez pas dans le dos. Un parmi tous ces anonymes qui ne sont pas conviés au bal et qui croupissent dans les abîmes d'une indifférence banale. Ne craignez pas la mauvaise graine, je n'abreuverai pas vos sillons d'aucune rancœur, d'aucune haine. C'est écrit dans ma religion. Je sais ce n'est pas la terre promise, j'ai appris à en faire le deuil en nettoyant vos pare-brises sur un carrefour près de Montreuil. J'ai tout laissé pour qu'on m'accueille, ou poussant toute liberté, des millions de trèfles à trois feuilles, sans avoir peur d'être arraché. Et quand seront chassés de ma terre les charognards et les corbeaux, je ferai le chemin à l'envers et je retrouverai le repos. Je ferai le chemin à l'envers et je retrouverai le repos.
Il s'appelle Jules et le vilain Orchestra. Le titre, c'est Le trèfle à trois feuilles. Vous écoutez CFM Radio, le carnet de correspondance. La suite, toujours en compagnie de Jean-Marc Robin. On s'intéresse plus particulièrement aux classes de 3e. Aujourd'hui, on a parlé en première partie de l'évaluation des connaissances et des compétences au travers du brevet, donc le diplôme national du brevet. On a parlé des certifications en informatique, en anglais, mais aussi des attestations, que ce soit pour la formation au premier secours ou encore celle sur la sécurité routière. On va passer maintenant, Jean-Marc, à une partie qui est très importante aussi quand on est en classe de 3e. Ça concerne l'orientation des élèves, ce qui passe par différentes choses et notamment tous ceux qui ont une PME, une association. Vers le mois de décembre, ils reçoivent des mails, des appels des élèves de 3e pour la recherche d'un stage, parce que l'idée est à cette étape-là de leur apprentissage, de les ouvrir un peu à autre chose, quoi, à se projeter.
Oui, et c'est vrai que la classe de 3e, c'est vraiment la classe de l'orientation. Et donc, pour les aider dans leur projet personnel d'orientation, eh bien, les élèves vont devoir faire un stage en entreprise. Donc, c'est un stage qui est d'une semaine. Alors, chaque établissement le positionne dans le calendrier où il le souhaite. Donc, par exemple, nous, à Côte-sur-Ciel, on a pris la dernière semaine de décembre. D'autres font en février, en janvier, voilà. À côté de ça, et ça c'est un petit peu le chef d'établissement qui a la main dessus, il peut aussi, pour d'autres élèves, il peut aussi permettre aux élèves de faire des stages pendant les petites vacances ou pendant le temps scolaire. Pourquoi ? Alors moi je le fais avec plaisir, parce que souvent, toi, la date t'est imposée. Toi, tu veux faire ton stage, je sais pas, dans une entreprise d'aéronautique, et puis évidemment, tu arrives, t'es le 3e, t'es le 30e, ils te disent, c'est pas cette date-là, là, ouais. C'est pas possible, donc ce sera un autre moment, et donc parfois, t'as des élèves qui sont un peu malheureux, donc c'est vrai qu'on essaye de leur offrir la possibilité de le faire à d'autres moments. Alors, souvent, après, l'établissement, là encore, a un petit peu la main, c'est-à-dire que c'est à nous de définir le territoire. Alors moi, je suis très souple, c'est-à-dire que je considère qu'on peut faire son stage partout en France, à condition d'avoir une adresse, une personne, tu vois, de confiance. Parce qu'en fait, il faut savoir que les établissements, nous, on doit gérer toute la partie assurance. C'est-à-dire que s'il y a un accident de trajet, s'il y a un problème, il faut pouvoir le gérer. Donc, il faut qu'on puisse s'appuyer sur un adulte responsable. Et nous, les établissements scolaires, on s'assure pour ces stages-là. Hein, alors, attention, ce sont des stages d'observation. Ça veut dire que les élèves n'ont pas le droit de travailler. Alors dans la pratique, parfois, ils donnent un petit coup de pouce, mais il faut surtout pas qu'ils s'approchent des machines, des outils dangereux, parce que les élèves de 3e n'ont pas le statut d'apprenti, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas couverts s'il leur arrivait un accident. Parfois, malheureusement, ça a pu arriver, lié à une machine dangereuse, que ce soit dans un garage, que ce soit dans une boulangerie. Donc, il faut faire très, très attention et bien rappeler ce message aux élèves et puis aussi aux chefs d'entreprise qui accueillent nos élèves et que je remercie au passage parce que, bon, franchement, accueillir un élève de 3e, c'est beaucoup de boulot. Hein. Ça ne va pas être une ressource pour l'entreprise. Hein.
Non, mais c'est juste avoir quelqu'un au-dessus de son épaule qui peut être très, très curieux, poser des fois des questions judicieuses d'ailleurs sur le pourquoi du comment de ceci. On sait très bien que l'idée, c'est de leur ouvrir un peu l'esprit et les yeux sur un domaine professionnel. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément le faire par la suite. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend en termes d'orientation pour ces élèves de 3e à la fin de l'année? C'est quoi l'idée?
Alors, c'est très simple. En fait, à la fin de l'année, les élèves, ils doivent choisir, je parle pour les élèves de 3e, ils doivent choisir entre faire une seconde générale technologique dans un lycée général technologique ou une seconde professionnelle. Donc, en fait, leur choix, c'est, on ne leur demande pas de se spécialiser, je fais une seconde générale technologique et puis après, je vais choisir, à l'issue de ma classe de seconde, je vais choisir des enseignements de spécialité, je vais faire un bac général et puis après, je poursuivrai dans l'enseignement supérieur. En revanche, effectivement, les élèves qui choisissent une seconde professionnelle, on ne va pas forcément leur demander de choisir un métier, mais une famille de métiers. Tu vois, les métiers de la relation client, les métiers de l'accueil, les métiers de... Ça peut être aussi autour du soin, d'aide à la personne, ça peut être aussi dans le domaine industriel. Donc là, en classe de seconde, quand ils seront en lycée professionnel, on va les initier à plusieurs domaines et à cette, c'est à la fin de la classe de seconde qu'ils pourront choisir vraiment un métier. Quand tu choisis une seconde pro, ça veut dire que tu as l'idée qu'au bout de 3 ans, seconde, première, terminale, ben, tu deviens un métier en main et tu peux travailler. Tu vois, un élève qui va en seconde générale technologique, lui va devoir poursuivre son parcours pour faire, alors après, un brevet technicien supérieur, un BTS, une licence ou un master, mais il est obligé de poursuivre son parcours, alors que ce n'est pas le cas pour les élèves qui choisissent une seconde pro. Donc ce choix est très important. Hein, ce choix est très important.
Et pour les accompagner dans ce choix, donc
alors, pour les accompagner dans ce choix, ben, tu peux t'appuyer sur d'abord le professeur principal, mm-hmm. qui en général connaît bien le territoire et différents établissements du territoire, parce que tu sais, la plupart des élèves, ça c'est un petit peu dommage d'ailleurs, ils restent souvent sur leur territoire. Donc tu vois, à Cordes, ici, ils vont rester autour d'Albi, très peu vont aller sur Toulouse. Ou... Moi, je dirais que parfois, c'est un petit peu dommage parce qu'ils choisissent la proximité, alors que peut-être que la formation qui leur correspondrait le mieux, peut-être peut se trouver, je ne sais pas, dans le Lot, dans le Gers. Mm-hmm. Après, c'est des questions de transport,
ouais, de transport et puis
d'organisation, et c'est pas simple. Donc, en fait, ils sont accompagnés par le professeur principal. Et puis, n'oublions pas qu'on a la chance dans les établissements scolaires d'avoir des conseillers d'orientation psychologue. Alors, bon, dans les petits collèges, ils vont être là une demi-journée. Dans les gros collèges, ils peuvent être là, par exemple, une journée. Ils vont pouvoir justement faire passer des tests, discuter avec les élèves. Mm-hmm. Et bien sûr, avec les parents aussi, parce que le projet d'orientation, c'est une co-construction hein, entre l'élève, les parents et puis aussi l'établissement scolaire. Enfin, le chef d'établissement, ça peut être une ressource aussi, sachant que lui, il a un pouvoir un peu spécifique, c'est-à-dire que les élèves vont faire des vœux au second trimestre, hein, c'est-à-dire en mars. Le conseil de classe va commencer à apporter une réponse. Bon, ton vœu de seconde GT, c'est bien parti. Alors, bien sûr, il ne faut pas que tu t'écroules au troisième trimestre. Ton vœu de seconde pro, d'accord, mais il faut que tu fouilles un petit peu, que tu cherches un petit peu. Et puis, au troisième trimestre, ça va devenir des vœux définitifs. Et là, tu as deux possibilités. Soit le conseil de classe dit c'est OK, il valide ce projet d'orientation. Soit il ne le valide pas, il y a un désaccord avec la famille. Et dans ce cas-là, c'est le chef d'établissement qui va prendre la décision finale. En fait, c'est le chef d'établissement qui prend la décision finale. Alors pourquoi c'est le chef d'établissement qui prend la décision finale? Parce que tu peux avoir, en fonction des équipes, ça doit être plus ou moins sec. Tu vois, donc pour établir une forme d'équité entre les élèves, quelle que soit leur classe, le chef d'établissement qui connaît toutes les classes, puis qui préside les conseils de classe, peut dire bon, là ça va passer, etc. Et si jamais il y a encore un désaccord avec le chef d'établissement, dans ce cas-là, tu peux faire appel devant une commission d'appel où ne siège pas le chef d'établissement. Ah, c'est-à-dire que ça va être un autre,
indépendant.
Voilà, ça va être un autre chef d'établissement, une commission d'appel qui est composée de professionnels, d'enseignants, de chefs d'établissement, de représentants des parents et qui va prendre une décision après définitive.
Ils s'en passent des réunions quand même.
Ah oui. Alors aujourd'hui, si tu veux, concrètement, on va plus en appel. Je veux dire, nous, on essaye vraiment d'être dans le dialogue avec les familles. Et je l'ai dit, vraiment, on est dans la dynamique que l'orientation soit choisie et pas subie. Moi, j'ai déjà dit à cette antenne-là, mais il est hors de question de forcer la main à un élève qui lui dire « va en voie professionnelle » alors que l'élève ne le veut pas. Tu vois, parce qu'on est sûr que ça va être source de décrochage scolaire. Et puis, on est dans cette idée un petit peu de droit à l'erreur. Alors, bien sûr, quand les résultats de l'élève sont très, très, très faibles, bien sûr, mon boulot de chef d'établissement, c'est d'insister en disant « faut quand même pas l'envoyer au casse-pipe, hein, votre enfant. » Mais on est quand même dans cette dynamique où, moi, j'ai connu quand j'étais jeune des conseils de classe qui étaient assez féroces. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein. On est dans l'accompagnement aujourd'hui. Hein. On est vraiment dans l'accompagnement.
Mais tiens, à ce niveau, rappelons un peu quels sont les objectifs nationaux qui sont fixés par rapport à toutes ces notions liées à l'orientation, parce que ça paraît simple comme ça, mais il y a vraiment une volonté, on peut même dire, gouvernementale derrière.
Oui, alors en fait, il faut savoir que l'objectif du système scolaire, tout simplement, c'est que tout le monde sorte avec une qualification. Donc le minimum, c'est le CAP, hein, puisque c'est le premier diplôme, hein, certificat d'aptitude professionnelle, c'est 2 ans après la classe de 3e. L'objectif, mais on l'a déjà atteint aussi, et tout le monde s'en rappelle, c'est les 80% hein, d'une génération au niveau baccalauréat. Et puis un objectif qui a été défini aussi dans le cadre de l'Europe, hein, qui est de 60% d'élèves diplômés de l'enseignement supérieur. Ça, c'est énorme. Hein. Ah, bah, aujourd'hui, on n'y est pas. Hein. Ça veut dire que tu vois, 6 jeunes sur 10, garçons ou filles, doivent être, dans les promotions actuelles, diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, c'est vraiment une aspiration vers le haut.
Mmh. Alors, mais est-ce que ça n'a pas des travers aussi, excuse-moi Jean-Marc, est-ce que ça n'a pas un peu des travers aussi de se dire ah, il faut qu'il y ait 80 qui aient le bac, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est on corrige, on donne des notes un peu comme ça pour avoir 90% des personnes qui ont le bac.
Non, on peut pas dire ça. Alors, en fait, si tu veux, on est passé d'un système de notation. Moi, j'étais prof pendant 17 ans, donc je l'ai bien vu. Où on notait très sec. Si tu veux, quand t'avais 12, tu faisais, wow, là, j'ai une bonne note, quoi. Fête, et c'est vrai qu'on a élargi un peu au lycée la notation. C'est-à-dire que un élève qui fait une très bonne copie, maintenant, tu lui mets 16. Avant, tu lui mettais 13. Mmh. Moi, je vois, j'ai enseigné les sciences économiques et sociales. En début de carrière, la meilleure note que je mettais, c'était 14. Et puis après, en fin de carrière, quand j'évaluais les copies du baccalauréat, si la copie était bonne, je mettais 18. Bon, je n'avais pas jusqu'à 20. On est encore des enseignants français. Mais bon, à 18, c'était le maximum que je mettais, parce que 20, bon, ça me paraissait un peu difficile. Mais voilà, on a quand même changé un peu de culture de notation, en tout cas au lycée. Alors, c'est vrai que alors, quand on parle des chiffres du baccalauréat, on dit par exemple 90% des élèves ont eu le baccalauréat. Attention, c'est 90% des élèves qui ont passé le baccalauréat. C'est pas 90% d'une génération, hein, puisque tu as des élèves qui travaillent, par exemple. Mmh. Et puis, les baccalauréats sont différents. Si on prend, par exemple, le baccalauréat auquel tout le monde pense, ce qu'on appelle le baccalauréat général, tu n'as qu'un élève sur deux qui présente le baccalauréat général. Les autres, c'est quoi? C'est 20% le bac technologique et après 30% le bac professionnel. Donc, quand on dit on donne le bac à tout le monde, excuse-moi, de quel bac tu parles? Si c'est le bac général, eh ben non. Désolé, c'est qu'un élève sur deux. Voilà. Et n'oublions pas les 20% qui n'ont pas le bac aussi. Tu vois, tu as une génération qui fait 800 000 élèves, 20% qui ne l'ont pas, c'est quand même pas rien. Hein. Et donc, parfois, parmi ces élèves-là, tu as de gros décrocheurs, c'est-à-dire des élèves qui sortent sans rien, sans aucune qualification. Alors, heureusement, on a fait un gros travail dans l'éducation nationale, mais le nombre de décrocheurs, aujourd'hui en France, il est autour encore de 100 000. Hein. C'est-à-dire, tu vois, 100 000 jeunes qui sortent sans rien.
Sans rien du tout.
Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on on met tout en place pour que les élèves puissent faire des retours en parcours de formation initiale. C'est-à-dire que, par exemple, un élève qui, imaginons, hein, qui a fait une seconde générale, en première, il a décroché, il a fait un service civique, il s'est mis à travailler, puisque la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. S'il a 17 ans, il veut reprendre des études, on va lui retrouver une place en lycée professionnel. Donc, on a fait un gros boulot par rapport à ça, mais le décrochage, ça reste encore une question. Et quand les élèves n'ont pas de diplôme, alors sur le marché de l'emploi, c'est horrible. Hein, parce que là, ça veut dire que le taux de chômage, il est de 50%. Tu vois, par exemple, si on prend les taux de chômage, un jeune qui a, qui a fait des études supérieures, son taux de chômage, il va être autour de 10%. Un jeune qui n'a rien, c'est 50%. Donc, c'est 5 fois plus de chances d'être au chômage. Donc, tu vois, l'enjeu, le diplôme protège du chômage. Alors, pourquoi il protège du chômage? Pour une raison simple, c'est que les emplois sont de plus en plus qualifiés. On vit dans une économie développée et les emplois peu qualifiés, on le voit bien, ils sont détruits par le progrès technique, l'informatique, la robotisation, etc., dans l'industrie, ou l'informatique dans les services, par exemple. Et puis, n'oublions pas qu'à côté de ce progrès technique qui détruit des emplois, on a aussi la mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a des emplois qui sont partis, qualifiés, qui sont partis.
De l'autre côté, c'est moins cher. On dort pas, quoi. C'est moins
donc,
cher.
Tu vois, c'est deux moteurs, mondialisation plus progrès technique, fait que nous, dans les pays développés, on n'a pas d'autre choix que de monter toujours en qualification parce que les emplois de demain seront toujours plus qualifiés. Donc, il faut que les jeunes, tu vois, les 60% au niveau du baccalauréat, enfin 60% de l'enseignement supérieur, c'est un cadrage européen. Donc, on est dans cette dynamique, on n'a pas le choix. Si on veut avoir un boulot, il faut se qualifier et il faut faire des études plus longues.
Je vous le disais en introduction, hein, qu'on demande aux élèves de 3e de se projeter bien au-delà de leurs études. Et bien, c'est ce qu'on a fait là. On s'est projeté un peu plus au-delà de la simple classe de 3e. On arrive au terme de cette émission, Jean-Marc. Est-ce qu'il y a, en guise de dernier mot, est-ce que tu as quelques éléments encore à souligner, à apporter là, en ce qui concerne cette classe de 3e vraiment charnière, hein, en termes d'apprentissage?
Oui, ben moi je dirais que c'est une chouette classe. C'est un palier d'orientation. Comme je le disais tout à l'heure, les élèves, ils ont vraiment une autre relation que les professeurs. Et c'est un moment où les élèves développent vraiment leur autonomie, ils apprennent à travailler ensemble. Tu sais, pour réussir au lycée, autant au collège, tes parents, ils peuvent un peu te suivre, mais quand c'est le lycée, c'est fini. Hein,
ça commence à être compliqué pour certains parents.
Ouais. C'est compliqué parce que les savoirs sont trop experts. Moi, j'enseignais les sciences économiques et sociales. J'ai eu très peu de parents qui étaient capables de mettre les nez dans les cahiers parce que c'est trop technique, tu comprends rien. Valeur ajoutée, taux de marge, élasticité prix.
Si tu l'as fait, c'est tellement loin. Ouais, c'est loin. Franchement, il y a des notions là du lycée, je suis plus sûr de pouvoir les réussir.
Donc moi, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse au collège, c'est qu'on apprenne surtout aux élèves à coopérer entre eux. Mm. Tu vois, à travailler ensemble, que ce soit dans le cadre de la classe, ce qu'on appelle la pédagogie coopérative, ou que ce soit en études, que vraiment ils travaillent ensemble, parce que plus tard pour les aider dans leurs études. Leur première aide, ça sera leur propre copain, leur propre père. Et puis après, la classe de troisième, elle est aussi sympa parce que c'est un rite de passage et c'est aussi bah, le moment des premiers amours. Donc ça, c'est tout à fait important pour les élèves. Mmh. Tu sais, les élèves, ils ont deux pieds, hein, un pied dans leurs études et puis un pied dans leur vie de jeune. Donc c'est vrai que ce moment de troisième est un moment important. J'en profite pour dire aux parents, au passage, parce que les parents ne le savent pas toujours, la majorité sexuelle, elle est à 15 ans. Elle n'est pas à 18 ans. Ah ça, il faut quand même que les parents s'en rappellent. Ça veut dire que, par exemple, accéder à une contraception être amoureux.
Et les accompagner voilà. dans la découverte de tout ça. Cela aussi. Ouais.
Alors, la majorité sexuelle est à 15 ans, mais en fait, quand on regarde un petit peu les études, l'âge moyen du premier rapport sexuel, il est à 17 ans. Il n'a pas trop changé, en vérité. Ça Donc, va. Tu vois, on est plus proche des 18 ans. Voilà, c'est pour rassurer les parents.
Bon, certains sont rassurés, peut-être. Voilà.
Mais c'est vrai qu'il faut avoir toujours un petit œil. En fait, quand on est parent, il faut vraiment être vigilant à ce que les élèves ils aient aussi un bon équilibre entre leur vie de jeune, leurs loisirs, leur vie amoureuse, leurs copains. Tout ça, c'est très important. Il ne faut pas le rater, tout ça.
Et ça conditionne aussi, des fois, la réussite.
Absolument, puis c'est un équilibre personnel. Et puis après... ce que nous, on appelle le métier d'élève. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas que le balancier penche. Soit tu fais ton métier d'élève à fond, et puis en fait, tu passes à côté de plein de choses tellement importantes pour toi, pour ton développement personnel, ou bien tu fais un peu trop la fête, tu es un peu trop dans ta vie de jeune, et parfois, tu passes à côté des études. Donc, c'est ce que vont devoir gérer les élèves de troisième, et en fait, ce qu'ils vont devoir gérer après, quand ils seront au lycée, c'est trouver un équilibre. Et avec cette classe de seconde, tu vois, t'as pas d'examen en classe de seconde, puisque l'épreuve de français du baccalauréat commence en première, puis après le bac, c'est la terminale, bien sûr. Il faut apprendre à gérer cette liberté-là, qui est nouvelle. Donc, moi, je dirais aux parents, allez, il faut regarder un petit peu et veiller à ce que les élèves travaillent régulièrement, en fait, c'est ça, et s'organisent. Voilà. Mais il faut les laisser aussi devenir eux-mêmes, hein.
Voilà. Bien, c'est sur ces belles
Trouver
paroles.
Un bel équilibre.
C'est sur ces belles paroles que l'on va clôturer cette émission, hein, que je vous invite à réécouter en podcast, hein, si vous l'avez prise en cours de route sur cfmradio.fr, carnet de correspondance avec Jean-Marc Robert. On se quitte en musique Creedence Clearwater, I Heard It Through the Grapevine. Merci Jean-Marc. À
Merci
bientôt.
Jack.